7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Nous sommes le 7 juillet, il est 8h du matin et comme vous l'entendiez il y a quelques instants, eh bien, dans une émission il y a quelques semaines, après avoir vu le premier film La Bataille de Gaulle, j'invitais Eric Branca à revenir pour parler du deuxième volet sur Radio Courtoisie. C'est désormais chose faite. Nous allons parler ici ce matin, nous avons une heure complète pour aborder tout ce sujet, savoir un petit peu quelle est la réalité historique, savoir exactement et justement ce qu'un historien peut avoir comme regard sur ce film. C'est tout de suite le grand entretien.
Ligne à droite. Le grand entretien.
Et pour ce grand entretien, nous retrouvons donc l'historien Eric Branca. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur chez Albin Michel de De Gaulle et les Français libres et chez Perrin de De Gaulle et les Grands, donc édité également chez Tempus, réédité chez Tempus en 2024 et bien sûr auteur de L'Ami américain, autre succès de vente que vous avez réalisé, tout cela donc sur ces différents sujets de la France, de Gaulle et évidemment des États-Unis. C'est un petit peu tout ça qui nous occupe aujourd'hui. Pourquoi ? Et bien parce que nous allons parler du deuxième volet donc du film La Bataille de Gaulle, J'écris ton nom. C'est ainsi qu'il est appelé en référence bien sûr au poème de Paul Éluard, Liberté, j'écris ton nom. Alors la première question que je voulais vous poser, Eric Branca, c'est qu'on vous avait invité il y a un mois pour en parler donc. Vous m'aviez confié être un petit peu mitigé sur l'aspect historique, avoir beaucoup de choses à en redire. Déjà, sur un plan général, est-ce que c'est la même chose pour vous, pour ce deuxième film ?
Alors, pas du tout. Et c'est d'ailleurs très rare d'avoir un avis si différent sur deux parties. Mmh. On n'a pas l'impression que... c'est le même auteur, bien sûr, mais on n'a pas l'impression que ça a été écrit par la même personne. Il y avait, je l'avais dit dans la première partie, pour moi, quelques erreurs impardonnables et puis des lacunes. Là, il y a quelques lacunes, parce qu'il y a des choix de mise en scène, il y a des choix de narration, mais il y a un souffle épique, il n'y a aucune erreur. On a l'impression que les acteurs ont fait des progrès, notamment De Gaulle, qui est absolument formidable. On a dit du mal de Raymond Abkarian, j'ai entendu par-ci par-là dire du mal à cause de ses prises de position, mais ça m'est complètement égal. C'est un très grand acteur et c'est un très grand De Gaulle. Et il était plus emprunté dans la première partie, enfin je ne sais pas, je pense que c'est des problèmes de scénario, je ne connais pas la cuisine interne ni les secrets de la production, mais il s'est passé quelque chose entre les deux et vraiment la deuxième partie, j'en suis ressorti absolument enthousiaste, enthousiaste, même s'il y a eu des partis pris, mais que je peux partager, il y a des choses dont on ne parle pas, il y a des choses sur lesquelles on insiste et à mon avis on a raison d'insister, mais vraiment là je suis sans nuance, je suis 100% pour.
Et bah écoutez, ça fait plaisir déjà à entendre, mais pourtant ce qu'on peut remarquer c'est que déjà entre les deux films il y a de nombreux parallèles qui sont faits et qui sont volontairement soulignés. Le premier c'est bien sûr chaque film qui a son résistant, chaque film a son général censé remplacer le général de Gaulle, et ça c'est un point qui est quand même assez central. Dans le premier film, on voit que c'est l'amiral Darlan qui donc est ministre de Pétain, de Vichy, et qui finalement est choisi par les Américains pour remplacer de Gaulle à la tête de la France libre, qui est assassiné donc à la fin du premier film, et dans le deuxième film, c'est le général Giraud qui est mis à la place. Alors déjà, est-ce que Giraud a... le doute est un peu entretenu là-dessus, mais est Vichot compatible quelque part ? Est-ce que, quelle est son histoire en réalité à ce général
Giraud ? Il est tout à fait Vichot compatible, mais il n'a pas été compromis dans la collaboration, puisqu'il a été fait prisonnier de façon assez malencontreuse en juin 1940. Il a passé 2 ans prisonnier à Königstein, il s'est évadé, une évasion... qui est taillé assez porteuse de polémique d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il s'est vraiment évadé ? Est-ce qu'on l'a aidé à s'évader ? Bref. Mais enfin, en tout cas, il n'a pas été du tout compromis dans la collaboration puisqu'il a été prisonnier. Mais il a... d'ailleurs, quand il s'évade, il va voir Laval à Vichy, et puis il voit le maréchal Pétain, etc. Puis ensuite, il passe en Espagne, et de là, il est pris en charge par les Américains qui en font le rhum pour remplacer De Gaulle. Et il a dans son sillage quelqu'un qui s'appelle Pérouton, qu'on voit dans le film, et qui est un personnage assez... assez sulfureux, puisqu'il a été un des premiers ministres de l'intérieur du Vichy. Il a participé aux premières rafles contre le résistant, etc. Il a été le ministre de l'intérieur du statut des Juifs. Enfin, c'est un personnage tout de même assez... Alors lui, il est plus que vichysso-compatible. Il est totalement vichyste et il est dans le sillage de Giraud. Et on voit très bien que les Américains, mais ça leur est complètement égal. Au contraire, c'est un gage de continuité avec le gouvernement de Vichy, parce qu'en fait, le rêve des Américains aurait été que le maréchal passe en Afrique du Nord. Mmh. Parce que là, la continuité aurait été totale, on se serait passé de De Gaulle et on aurait continué avec Pétain, qui aurait effectivement été leur homme. Bon. Oui. Donc ça n'a pas eu lieu, donc ça, c'était bien pour les Américains d'avoir quand même un personnage du Vichy. Mmh. Et Giraud est de ce point de vue-là totalement compatible, mais une différence, je le répète, parce qu'il faut tout de même pas, il faut avoir de la nuance, il n'a rien à voir avec Darlan, parce qu'il n'a participé à aucune des choses déshonorantes de Vichy.
Mmh. Alors justement, ce qui est souligné dans le film, c'est que lui, ce Giraud se montre comme une sorte de républicain, mais républicain sur les idées assez antisémites, qui justement... lui serait toujours favorable au fait de garder des lois anti-juives sur le
sol français. Non, c'est presque pire. Ça lui est égal. Ouais. C'est pas son problème. Il dit je ne fais pas de politique. Et donc non, il n'est pas antisémite. Il n'est pas. Mais voilà, c'est pas un sujet que des citoyens français soient considérés comme des citoyens de seconde zone. Bon, il faut dire les choses comme elles étaient. Le statut des Juifs en Afrique du Nord n'était pas le même qu'en France occupée ou à Vichy. En France occupée, ils risquaient la mort. À Vichy, ils étaient humiliés, mais ils ne risquaient pas la mort quand ils étaient juifs français, attention. En Afrique du Nord, ils ne risquaient rien. Enfin, ils étaient quand même des citoyens de seconde zone, ils portaient l'étoile, ils n'avaient pas accès à la fonction publique, enfin, ils étaient tout de même persécutés. Oui. Ils étaient en sûreté. Mais ils étaient persécutés. Mmh. Et donc, quand il arrive, il ne voit pas la nécessité de changer ça. Mmh. Voilà. Donc, c'est presque pire que s'il avait eu des idées. Il n'avait pas d'idées. Voilà. C'est un peu le problème de Giraud.
Et alors, petite anecdote que j'ai entendue, je ne sais pas si elle est juste, mais apparemment, durant un exercice un jour de blindé avec le général Giraud, ce dernier aurait eu sous son commandement le général de Gaulle, et ils n'auraient pas du tout la même vision, justement,
des blindés.
Où Giraud voulait faire avancer les blindés avec l'infanterie, tandis que De Gaulle voulait la faire percer en avant. Et apparemment, Giraud aurait déclaré devant les journalistes, après que De Gaulle avait présenté sa propre stratégie, ce De Gaulle est l'officier le plus stupide de l'armée française. Ça, ils avaient une relation quand même tous les deux, en tout cas.
Ils avaient une relation compliquée.
Oui, c'est ça. Conflictuelle dès l'origine, oui.
Vous savez, De Gaulle, il est le seul qui soit vraiment battu en 1940. Avec ses idées et en vertu de sa doctrine, et qui a remporté une victoire infime, c'est un océan, c'est une goutte dans l'océan de la défaite. Mais enfin bon, Montcornet, c'est une belle victoire avec ses idées. Alors que le général Giraud a été fait prisonnier un petit peu, il a été fait aux pattes par les Allemands en Belgique en 1940. Et il y a d'ailleurs une anecdote assez drôle. Lorsque Roosevelt, on ne sait pas si c'est par sadisme ou par humour, demande au général Giraud lors d'un dîner qui était réuni, donc Roosevelt, De Gaulle et Giraud, et demande à Giraud, racontez-nous votre évasion. Car il s'est évadé au bout d'une corde et il était assez athlétique et c'est une belle évasion. C'est une belle évasion, si tant est qu'elle n'ait pas été... il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Bref, peu importe. Et donc, De Gaulle écoute, etc. Et le héros du jour raconte comment il est descendu depuis la fenêtre de la forteresse de Königstein, etc. Et il y a un silence. Et ensuite, De Gaulle dit à Giraud, se tourne vers lui. Et si le général nous racontait maintenant sa capture?
D'accord.
Ça vous dit le niveau qui était celui de leur relation.
On reviendra un petit peu plus tard sur Roosevelt, parce qu'il y a un autre général qui crève l'écran absolument dans ce deuxième film. Donc, je précise d'ailleurs que Giraud est joué par Thierry Lhermitte. Voilà,
qui est remarquable. Tous remarquables. Voilà. Vraiment, il y a en plus, dans ce film, un parti pris de ressemblance des acteurs, j'ai rarement vu un parti pris pareil.
Il y a une petite polémique sur justement De Gaulle qui, pour le coup, a pas particulièrement, enfin Simon Carrel, qui a pas particulièrement le physique de De Gaulle non plus, si ce n'est d'être grand et allongé, mais.
Oui, bon, mais ça m'a pas choqué du tout. Je trouve qu'il incarne tellement bien. Non, vraiment.
Mais c'est vrai, alors justement, un personnage, vous me refaites la transition, qui a une ressemblance parfaite avec le personnage historique, c'est le général Leclerc dans ce film, qui est finalement presque le héros de ce deuxième film.
Ah, c'est le héros. Dans la première partie, c'était Koenig, ouais. Et dans la deuxième
avec
partie, c'est Leclerc.
Ouais. Et alors, justement, le général Leclerc, déjà, première question, est-ce qu'il est aussi tête brûlée, qu'on le montre à l'écran ? Est-ce que c'est vraiment, ce mort au con ? Est-ce que c'est tout ça, le général Leclerc ?
Bien sûr, ouais. Bien sûr. C'était inscrit sur un char de la deuxième DB, absolument. Ah oui, le personnage est absolument conforme à la réalité, avec ce côté chevaleresque. Chevaleresque, au sens propre du terme. D'ailleurs, je voudrais revenir deux secondes sur cette affaire de chevalerie. Vous savez que quand De Gaulle crée l'ordre de la libération, dans son esprit, et ça Malraux l'a très bien expliqué après la guerre, c'est un ordre de chevalerie conforme à ce que c'était au Moyen-Âge. Et ces gens sont vraiment des chevaliers. Les combattants de la France libre, ce sont des gens qui s'engagent dès 1940 quand ils ont tout à perdre pour une certaine idée. Je ne veux pas du tout critiquer les résistants parce qu'il y a eu des résistants formidables, à commencer par Jean Moulin,
etc. Parlera,
mais vous avez des gens qui sont rentrés dans la résistance immédiatement.
Oui.
Vous en avez qui ont attendu 42, puis vous avez ce qu'on a appelé les résistants de la 25e heure. Et puis vous en avez d'autres comme François Mitterrand qui ont été d'abord des collaborateurs, ensuite des attentistes et enfin des résistants. Car François Mitterrand a fait tout très bien. Ça a été un parfait collaborateur, parfait vichiste et un parfait résistant qui a pris des risques physiques, notamment au moment de la libération de Paris. On ne peut pas lui enlever ça. Enfin, il a fait les deux. Donc, il y a quand même moins de prestige à avoir été un résistant évolutif que d'avoir, dès le début, tout quitté. Car ces gens-là sont pour la plupart arrivés, enfin les premiers, et c'était le cas de Leclerc, en juillet 1940, ils étaient, je l'ai dit, 3000, 4000, 7000 le 14 juillet. Ils quittaient leur famille, ils prenaient une fausse identité, ils passaient de l'autre côté de la Manche. Ils savaient que, quoi qu'il arrive, ils risquaient énormément et que leur famille risquait beaucoup aussi.
C'est le cas de Leclerc.
C'est le cas de Leclerc.
Justement, qui lui, pour le coup, risque toute sa famille, il me semble.
C'est pour ça qu'il prend un faux nom, parce qu'il s'appelle Hautecloque, il ne s'appelle pas Leclerc. Et donc sa famille continue à s'appeler
Alors, il commence la guerre capitaine, si je ne m'abuse. Et donc, finalement, il devient. Alors, je crois qu'il est envoyé, donc, dans le premier film, on le voit, il me semble, justement, il est dans le premier volet de ce film, il est envoyé en Afrique pour justement essayer de mener à bien des sortes de coups d'État pour récupérer.
Il rallie les possessions françaises d'Afrique équatoriale avec une colonne qui a moins de 100 hommes.
Oui.
Voix de saint homme.
Voilà.
Et cette colonne va, après l'affaire du Tchad, va remonter jusqu'en Libye avec un seul canon, et il va finir la guerre avec une deuxième DB très bien équipée de chars américains, parce qu'il n'y a que ça. C'est pas les meilleurs du moment, il y a quand même beaucoup de Sherman, et 16 000 hommes. Mmh. 16 000 hommes. La colonne Leclerc, ça commence autour de 60, 80, et ça se termine à 16 000.
Ouais. Et alors, ce qu'on voit d'assez formidable, justement, dans ce film, c'est déjà, évidemment, cette fois où c'est une très longue scène de bataille du film, où Leclerc, alors, je ne sais plus exactement le nom de cette bataille.
C'est en Tunisie, c'est
mais exactement, ça se passe en Tunisie.
Au moment où Rommel bat en retraite et où il va quitter l'Afrique du Nord.
Et alors là, donc, Leclerc s'oppose avec, je crois, 1000 hommes à une Panzer-Division complète. On voit le général Montgomery aussi, d'ailleurs.
Il est quand même sauvé par l'aviation.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est vrai, par l'aviation anglaise.
Mais ce qu'on voit quand même, c'est un aspect, et ça rejoint un petit peu votre côté chevaleresque, ce dont vous parliez. Il y a un côté profondément héroïque chez Leclerc. On sent qu'il est animé par une idée que, il le dit d'ailleurs, nous sommes invaincus. Enfin, finalement, nous sommes français et nous sommes invaincus.
Absolument.
C'est quelque chose qu'il répète.
Il y a un côté, bayard, chevalier bayard. Et d'ailleurs, c'était le préféré de De Gaulle. Hein.
Ouais.
C'était le préféré. C'est le seul qui l'embrassait. Et d'ailleurs, dans ses lettres, il lui dit « Je vous embrasse ». C'est des choses très rares. De Gaulle n'embrassait pas tout le monde. Et il avait une vraie passion pour Leclerc. Il avait sa photo dans son bureau. Et quand Leclerc est mort, dans des circonstances d'ailleurs assez, assez tragiques.
Justement, revenons tout, parce que c'était ma question suivante, c'est que on connaît, donc effectivement Leclerc est celui qui va libérer Paris, donc effectivement qui va rentrer, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais qui va rentrer dans Paris, qui va être le libérateur de Paris et de Strasbourg aussi d'ailleurs. Mmh. D'un autre côté, il a un destin tragique, Leclerc, il meurt dans un accident d'avion 2 ans après la guerre.
Oui, en 1947, au-dessus du Sahara, il avait une mission d'inspection au-dessus du Sahara français, et son avion était pris apparemment dans une tempête de sable. Mais l'enquête conserve des zones d'ombre, parce que il devait y avoir un certain nombre de passagers, il y en a eu un de plus qu'on a trouvé dans les décombres de l'appareil. En plus, il survolait une région stratégique, critique, qui est la région où on a trouvé plus tard, quelques années plus tard, en 54-55, du pétrole. Mmh. Et le pétrole du Sahara, c'était très important. Et il y avait un personnage, alors on n'en parle pas dans le film, ça n'a rien à voir, mais puisque vous me posez la question, je vous réponds, qui s'appelait Conrad Killian, qui était un personnage extraordinaire lui aussi, un géologue, qui depuis les années 30 était persuadé qu'il y avait du pétrole au Sahara. Et ce personnage a été pris à la limite pour un fou et un paranoïaque, car personne ne le croyait. Mmh. Personne ne le croyait. Il a été suivi par des agents américains, par des agents anglais. On a essayé de le tuer, on a essayé de l'empoisonner. Et il avait trouvé 2 personnes en 1944 qui l'ont cru. C'est le général de Gaulle et Leclerc. Et Leclerc, qui croyait dur comme fer qu'il y avait du pétrole au Sahara, car il avait été reconvaincu par ce géologue de génie, son avion est tombé au-dessus de ce champ de pétrole. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? On n'a pas de preuves, on n'a pas de... voilà, mais c'est une coïncidence un peu... qui interroge, comme on dit. Et Conrad Killian, quant à lui, il est mort quelques années plus tard, en 1950, suicidé, pendu à une espagnolette d'un mètre de haut. Donc on considère que c'est un suicide pour le moins étrange, oui, n'est-ce pas? Oui. Et puis, quelques années après sa mort, on a trouvé du Sahara là où il le disait depuis le milieu des années 30. Ouais. Voilà, petite parenthèse, sur la mort de Leclerc, on n'en sait pas plus, on n'en saura sans doute jamais plus, on ne peut pas du tout dire que c'est un assassinat, mais on ne peut pas dire non plus que c'est entièrement naturel.
Mmh. Et alors, un point qui est justement assez intéressant, et après on va finir la parenthèse sur Leclerc, mais il y a un côté où est montré dans le film une scène où De Gaulle fait promettre à Leclerc qu'un ordre passera au-dessus de tous les autres jusqu'à la fin, c'est qui doit être le premier à rentrer dans Paris, qui doit être celui qui libère Paris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne voit pas le serment de Koufra, à l'inverse.
Non, c'est très dommage.
Le serment de Koufra, c'est vraiment que font justement, pour rappeler peut-être aux auditeurs...
Le serment de Koufra, c'est au Tchad, 1940, nous ne déposerons les armes que lorsque le drapeau français flottera au-dessus de la cathédrale de Strasbourg. Ce qu'il a fait, il a même fait beaucoup mieux que ça, puisque après Strasbourg, il a foncé en Allemagne, il est allé jusqu'en Autriche, et au passage, il a pris le Nidec du Führer à Berchtesgaden, qui n'était pas la zone prévue d'occupation de la France, qui était une zone américaine, mais les Américains très courageux l'ont laissé monter jusqu'au Nidec, parce qu'ils ne savaient pas s'il n'y avait pas de SS qui attendait surarmé. Or, il n'y avait absolument personne, mais c'est quand même Leclerc qui est monté, les Américains n'y sont pas allés.
Ouais, et donc effectivement voilà, c'est finalement ce choix, et donc tout ça pour arriver donc à la libération de Paris. Libération de Paris, donc, alors ce qui n'est pas montré dans le film, c'est que celle se décide depuis Laval. Voilà, le plan de libération de Paris se fait à Laval, et pour l'anecdote, c'est vraiment leur quartier général à l'époque est à 500 mètres de l'endroit où habitent mes grands-parents, donc c'est un endroit que je connais particulièrement bien. Mais enfin, le début de la marche sur Paris justement se fait à partir du moment où donc les Américains ont débarqué. Et là, bon, évidemment, on sent le reflux allemand dans tout le pays, mais la question de Paris n'est pas encore tranchée. On se rappelle, on avait parlé pour le film Les Rayons et les Ombres, que Otto Abetz refuse l'ordre de brûler Paris, selon ce qui aurait été dit. D'un autre côté,
C'est surtout le gouverneur de Paris, gouverneur militaire.
Et en même temps, la résistance, évidemment, essaie de se soulever à Paris, et tout ça de manière concomitante avec l'arrivée du... Alors, comment ça se passe exactement dans ce...
Alors, c'est une période extrêmement critique, Roosevelt et le haut commandement américain n'ont pas l'intention de libérer Paris en priorité. Or, Paris se soulève, comme vous le rappelez très justement, fin juillet, début août. Et donc, il y a une référence qui terrifie littéralement De Gaulle et les Alliés, enfin surtout De Gaulle, parce que les Alliés s'en fichent un peu, mais De Gaulle terrifié à l'idée que les Allemands fassent comme à Varsovie et qui s'est soulevé ouais. au même moment et qu'il brise la résistance des Parisiens comme les Allemands ont brisé la résistance des gens de Varsovie alors que les Soviétiques étaient en face et on regardait les Allemands massacrer la population avec une des raisons très politiques dans la tête, c'était que les comme cette résistance polonaise n'était pas communiste, ils préféraient que les Allemands s'en chargent pour ensuite mettre un gouvernement à leurs mains. Et l'équivalent aurait pu se passer à Paris. Parce que quand De Gaulle voit que Paris se soulève et que les Américains n'ont pas la priorité de libérer Paris, il se dit « mais ça va faire comme à Varsovie. Oui. Ils vont attendre que les Allemands fassent le travail et puis ensuite ils viendront avec un gouvernement à leurs mains. » Et donc ça, il n'a pas voulu. Et donc il a fait savoir à Eisenhower que quoi qu'il arrive, suivre les ordres clandestins qu'il avait reçu, Leclerc foncerait de toute façon. Et Eisenhower a été très fair-play. Eisenhower était un type dont on ne dit pas assez bien d'ailleurs.
Mais c'est ce que j'ai. Le film est justement, c'est le seul Américain qui se sauve dans le film.
Absolument, mais parce qu'il était d'abord, c'était un soldat. C'était quelqu'un qui avait compris que De Gaulle n'était pas du tout un dictateur, mais quelqu'un qui voulait libérer son pays. Il était assez fasciné par De Gaulle. Il était comme la plupart des chevaliers, y compris Montgomery, absolument bluffés par l'héroïsme des Français libres, et donc il respectait, il avait un respect de soldat pour les Français libres, et ce que n'avait pas du tout Roosevelt. Et donc l'idée c'était que Leclerc arrive à Paris pour sauver le soulèvement, et puis pour éviter, si ce soulèvement fonctionnait, que ce soit les communistes prennent le pouvoir à Paris. Et d'ailleurs il y a eu une ombre au tableau entre De Gaulle et Leclerc, une seule, ça a duré un quart d'heure, mais Leclerc s'est fait, engueuler par De Gaulle. Pourquoi ? Parce qu'il a accepté, dans un premier temps, que les communistes qui s'étaient soulevés, et qui avaient été extrêmement courageux d'ailleurs, Rolle-Tanguy, c'est pas rien, vraiment les communistes ont été d'une efficacité redoutable lors de l'insurrection de Paris. Mais De Gaulle ne voulait pas qu'il signe la capitulation des Allemands. Qu'il soit signataire de la capitulation de von Soltitz. Et quand il est arrivé, gare Montparnasse, et qu'il a vu que Leclerc avait laissé Rolle-Tanguy, chef de l'insurrection communiste, signer à côté de von Soltitz, il s'est fâché. Il lui a dit ça, c'est pas militaire, c'est politique. Ouais. Alors le militaire, c'est vous, politique, c'est moi. Et on a refait l'acte de capitulation, et les communistes n'ont pas signé.
D'ailleurs, ce qui me rappelle autre point, justement, sur cette séparation entre le civil et le militaire, c'est cette scène, évidemment, où on voit De Gaulle faire un coup d'État auprès de Giroud. Alors, on va rentrer sur le sujet américain, qui est quand même le sujet central du film, après tout. C'est-à-dire que le premier film montre à quel point, donc le premier volet, montre à quel point les Français sont quelque part à la main du Royaume-Uni pour justement commencer la résistance, pour commencer la guerre. On voit que après, pour ce qui est de la gagner, tout dépend donc des Américains. On voit déjà dans un premier temps Roosevelt, évidemment, personnage, on va dire pour le moins exubérant, mais particulièrement américain. Alors, quelle est la relation de Roosevelt à la France déjà ? Parce qu'on a l'impression que c'est assez ambigu. C'est-à-dire que De Gaulle dit que c'est un grand francophile, mais très déçu par la France. Enfin, comment il faut
mais
le comprendre
il a raison.
De Roosevelt ?
De Gaulle n'a eu que des déboires avec Roosevelt. Il aurait pu le détester. Et curieusement, quand vous lisez les mémoires de guerre du général De Gaulle, ce que personne ne lit, et surtout pas les portraits, alors que c'est des morceaux de bravoure dignes de Saint-Simon, bref, peu importe, parenthèse close, il a un portrait extrêmement nuancé de Roosevelt. Et je pense qu'il touche à la vérité. Roosevelt était francophile jusqu'en 1940, comme l'était Churchill d'ailleurs, et ces gens ont été, et notamment Roosevelt, traumatisés par la rapidité de l'effondrement français. C'était la première armée d'Europe, en théorie, la France. Et en 4 semaines, elle est transformée en troupeau qui reflue vers le sud, qui jette ses armes, etc. Même si, on le sait, les Français sont bien battus par endroits. Mais enfin, la stratégie était tellement nulle que ça ne pouvait pas marcher. Et donc, le traumatisme de la défaite est très important chez les Américains. Vous lisez les mémoires d'Eisenhower. Eisenhower le dit très clairement. Pour Roosevelt, la France n'était plus une grande puissance, ne se relèverait jamais. Jamais. Et donc c'était un prétexte pour prendre pied dans l'Empire, parce qu'il n'y a pas que la nature qui a horreur du vide, la géopolitique aussi. Et donc il fallait prendre place, la place de la France pour les Américains, et c'était l'occasion rêvée. Mais il ne faut pas sous-estimer la... comment dire, le traumatisme que ça a constitué. Vous savez, quand le gouvernement français quitte Paris le 10 juin 1940, puis va dans la vallée de la Loire en se dirigeant vers le sud pour finalement terminer à Bordeaux, il y a des diplomates américains qui sont là et qui suivent le gouvernement. Il y a un diplomate qui s'appelle Freeman Matthews qui envoie des câbles à Roosevelt toute la journée en décrivant ce qu'il voit. Et il voit un gouvernement qui se déchire, ouais. Des militaires qui n'obéissent pas aux civils, des civils qui sont divisés entre partisans d'armistice et partisans de la continuation de la lutte, un Paul Reynaud flanqué de sa maîtresse, Madame de Porte, qui rentre en robe de chambre au Conseil des ministres, qui se permet de donner raison à un tel et de donner tort à tel autre, etc. Et donc, c'est pour les Américains une vision de la décadence politique incroyable. Et De Gaulle est témoin lui aussi de tout ça, puisqu'il est sous-secrétaire d'État à la guerre. Et il voit tout ça, et il comprend les Américains. Et donc, quel que soit sa résistance à l'impérium américain, et Dieu sait s'ils lui en ont fait voir, ça reste un psychologue et un homme politique plein de nuances qui comprend pourquoi ils sont opposés. Et il a, dans ses mémoires, une phrase très étonnante. Il dit, c'est vrai qu'avec Roosevelt, ça a été très difficile, mais si j'avais eu le temps de lui parler de ce que je voulais faire, peut-être que les choses se seraient arrangées. Vous voyez, il n'y avait pas... De Gaulle admirait Roosevelt pour ce qu'il avait fait avant la guerre, et évidemment, c'était devenu un adversaire pendant la guerre, alors que Roosevelt... méprisé de Gaulle.
Alors ça c'est un point qui est quand même assez fascinant, c'est que dans ce film, dans ces deux films déjà on voit assez peu les nazis, et en fait finalement on voit que la Seconde Guerre mondiale, même du côté allié, est une lutte permanente. On a déjà parlé un petit peu dans notre premier entretien la dernière fois, mais déjà évidemment contre les Anglais, ensuite contre les Américains. Alors là les Américains pour le coup, et Roosevelt en tête, leur plan c'est l'occupation de la France, l'occupation de l'Europe.
C'est l'occupation de la France, et pas seulement l'occupation, c'est aussi une modification du territoire français. Ouais. Hein. Et c'est pour ça que j'ai adoré d'ailleurs ce film, parce que c'est la première fois, à mon avis, au cinéma, qu'on montre ce qu'étaient les projets américains.
Ouais.
Parce que, quoi qu'on puisse penser de De Gaulle, et vous savez que j'en pense beaucoup de bien, mais avec ou sans De Gaulle, la France aurait été libérée.
Oui.
C'est pas De Gaulle qui a libéré la France. C'est même pas la résistance. Elle a contribué. La résistance a contribué à faciliter le débarquement par ses sabotages, par ses sacrifices. Bon, mais c'est ni De Gaulle ni la résistance qui ont libéré la France. Sans les Américains, faut le dire. Bon. En revanche, sans De Gaulle, la France n'aurait pas recouvré sa souveraineté.
Oui.
Et la bataille de De Gaulle, la vraie bataille de De Gaulle, c'est vraiment ça. C'est un, faire en sorte que les Français se battent partout dans le monde,
oui.
Sur mer, sur terre, dans les airs, jusqu'au dans le ciel de l'Union soviétique. Ça, on ne le montre pas,
non.
Mais Normandie, Niemen, c'est très important aussi, symboliquement. Bon. Et puis, qui est cette conjonction entre la résistance intérieure, et ça c'est très bien montré avec Jean Moulin,
on y reviendra.
Et puis, donc conjonction entre la résistance intérieure et la France combattante, qui se bat sur tous les fronts, pour faire en sorte que la libération soit également, pas seulement la libération du territoire, mais le retour d'une France souveraine. Or, c'est ce que Roosevelt refusait absolument.
Ouais.
Et on voit là une carte que les historiens connaissent, mais qu'on ne voit jamais, qui est la carte de l'Amgod, c'est-à-dire de la France telle qu'elle aurait été occupée par les Américains, par le gouvernement militaire allié. Et vous voyez que cette France, elle est plus petite que la France d'aujourd'hui, puisque Roosevelt prévoyait de détacher du territoire français toute une région qu'on appelait la Nouvelle Flandre ou la Nouvelle Bourgogne, tout ce que vous voudrez, qui est en fait tout le nord de la France, l'Alsace-Lorraine, une partie de l'actuel nord, Lille, etc. Pour faire une espèce de principauté, créer toute pièce, parce qu'il n'y avait pas que la France, hein, il voulait également faire une principauté belgo-luxembourgo-néerlandaise. Et tout ça aurait...
Une sorte de nouvelle Lotharingie.
C'est ça, c'est une nouvelle Lotharingie, exactement. Et ça, on n'en parle jamais. Et on la voit la carte derrière Churchill.
Et alors justement, on va revenir sur ce point dans un instant. Simplement, je rappelle à nos auditeurs qui sont ici donc sur Radio Courtoisie, nous recevons Éric Branca. C'est un grand plaisir de pouvoir discuter un petit peu de ce film. Simplement, nous devons aussi vous rappeler, chers auditeurs, que si Radio Courtoisie fonctionne, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos dons. Voilà, donc cet été, c'est souvent l'été, c'est souvent une période un peu vache maigre pour nous, oui, en termes de dons, parce qu'on a moins d'émissions, parce que forcément, évidemment, vous allez peut-être moins au travail, vous êtes plus en vacances, vous nous écoutez peut-être un petit peu moins. Ce à quoi on peut vous inciter, chers auditeurs, c'est de faire des dons, donc sur soutenir.rc.fr, voilà, des dons qui peuvent être de 2 euros, qui peuvent être de 100 euros, qui peuvent être de bien plus si jamais vous en avez l'envie et la capacité. Mais c'est très important en cet été que vous le fassiez, et ça, ça nous permet d'avoir un petit peu de prévision aussi pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. N'hésitez pas aussi à envoyer vos chèques au 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Non, c'est bien, ça fait conversation.
Mais oui, tout à fait. Et on reprend avec vous, donc, Éric Branca. Alors, déjà, donc, on parlait de l'Amgoth à l'instant. Déjà, cette carte de la France redécoupée, elle a fait pas mal polémique, quand même, après la sortie du film, parce que beaucoup ont dit que c'était uniquement un projet qui avait été présenté une fois à Roosevelt et qu'en réalité, c'était pas vraiment la matérialité du projet américain.
Bon, alors ça, ceux qui disent ça mentent. Ah. Je peux vous dire qu'ils mentent. Parce que des écoles ont été créées en Grande-Bretagne et aux États-Unis dès la fin 1942 pour occuper l'Europe, pour former le personnel militaire américain qui occuperait l'Europe. De Gaulle, dans ses mémoires, publie la note intégrale. Il faut lire les mémoires du général de Gaulle, personne ne les lit. Et parce que non seulement elles sont passionnantes et elles sont magnifiquement écrites, mais en plus il y a des annexes avec des documents de première main qu'il a donnés et qui sont des documents essentiels. Or, vous avez un document essentiel qui est la note du gouvernement américain pour la formation de ce personnel d'occupation de l'Europe, ces écoles de formation qui sont créées dès la fin de 1942 et où il est dit que les administrations des pays occupés devront être aux ordres des de l'occupant allié. Les administrateurs civils américains, enfin qui étaient des militaires mais qui étaient formés à l'administration civile, sont arrivés en même temps que les troupes américaines qui débarquaient, étaient pourvus de wagons entiers de billets de banque.
Alors ça c'est vrai, c'est-à-dire que pour les Américains avaient donc imprimé des billets Amgoth avec. Et alors, est-ce que c'est vrai qu'il n'y avait pas marqué France dessus?
Pas du tout, il y avait marqué, il y avait le drapeau français. On appelait ça le billet drapeau. Il y avait sur le recto le drapeau français et sur le verso, drapeau américain. Voilà. Et c'est cette monnaie, et qui était vraiment une monnaie de singe, n'était gagée par aucune banque centrale. Alors, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais le marque d'occupation, qui ne valait rien, valait quand même plus que ce billet et était gagé par la Reichsbank. Oui. C'est-à-dire que les Allemands respectaient plus, de ce point de vue-là, les Français occupés que les Américains. Ça n'était gagé par aucune banque. Enfin, c'est quand même stupéfiant.
Oui, on n'a jamais vu ça. Vous dites.
Et donc, si la première ville française libérée avait été, par exemple, Caen, par les Américains, et pas Bayeux, par les Anglais, on ne sait pas ce qui se serait passé. Car ça a été une course de vitesse, je l'ai raconté beaucoup, mais ça a été une course de vitesse dès le débarquement entre les commissaires de la République qui avaient été nommés par De Gaulle dans la clandestinité et qui ont surgi du maquis pour prendre la place des préfets de Vichy et surtout des administrateurs américains qui arrivaient avec leurs valises. Parce que si Bayeux, ça a été les Anglais, les Français ont été immédiatement là, le commissaire de la République, nommé par De Gaulle, est arrivé, a pris la place du préfet de Vichy et a interdit de circulation cette monnaie qu'il a ensuite été par De Gaulle sur l'ensemble du territoire. Mais c'était vraiment une course de vitesse, alors, c'était fondamental.
Elle dure combien de temps, cette tentation de l'Amgoth? C'est-à-dire qu'en fait, quand est-ce qu'elle s'arrête précisément?
Dès lors que De Gaulle arrive à Bayeux, le 14 juin 1944, c'est terminé.
Ah oui?
C'est terminé. Voilà. Alors ensuite, il y a d'autres projets dont je vais parler, ici, je crois, c'est les projets d'arrangement avec Laval à Paris. On en a parlé quand on a parlé du film Les Rayons et les Ombres, parce que là, c'est très bien montré. Mais Voilà, c'est terminé tout de suite, Lamgotte. Mmh. Il voit que ça fonctionne pas. Et puis surtout, Eisenhower et les chefs militaires américains ont un rôle important, car ils ont besoin de la résistance. Ils savent que la résistance est vraiment fondamentale pour aider les alliés à avancer, dans l'ordre des sabotages notamment, des embuscades qui tendent sur l'arrière des Allemands, et donc ils expliquent à Roosevelt qu'on a besoin de la résistance et que si De Gaulle est hors la loi et si en plus on inonde la France de monnaie de singe, la résistance n'aura pas le zèle qu'elle était censée avoir. Bah
alors ça c'est un point, on parlera de la résistance dans très peu de temps, mais justement c'est un point qui est assez important aussi dans ces deux films, donc la bataille De Gaulle, notamment le deuxième, donc c'est que évidemment, les Américains font tout pour remplacer De Gaulle, notamment, on en parlait tout à l'heure, par le général Giraud. Il y a cette scène absolument formidable de coup d'État institutionnel du général De Gaulle, qui alors est nommé coprésident de la France libre avec Giraud.
Non, du Comité français de libération nationale.
Voilà, du Comité français de libération nationale. Giraud reste chef des armées dans cette affaire, sauf que De Gaulle réalise une séparation des pouvoirs militaires et politiques.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette... Est-ce que ça s'est vraiment passé comme
c'est
ça
pas c'est pas un coup d'État, c'est...
Non, mais enfin, c'est une sorte de putsch démocratique.
C'est la démocratie. Les Américains n'avaient aucune légitimité pour dire « vous serez président de ça, vous serez président de ça ». C'était aux résistants d'en décider. Ça, c'était la vie de De Gaulle. Et donc, c'est là où le rôle de Jean Moulin a été absolument essentiel. C'est que Jean Moulin a réuni sous la houlette du CNR, l'intégralité des représentants de la résistance, des réseaux de droite et même d'extrême droite, car il y en avait, jusqu'au parti communiste. Et également tous les représentants des partis politiques. Et ça, c'est la réunion du 25 mai 1943 qui a eu vraiment un rôle, mais essentiel, pour que les Américains se rendent compte que tout le monde était derrière De Gaulle et que leur malheureux candidat Giraud n'était qu'une marionnette qui n'était soutenue par personne. Car
sauf
la résistance,
par les Américains. Donc.
Sauf pour eux. Sauf par eux. Voilà, ça fait peu par rapport à l'unanimité. De la France qui se bat.
C'est pareil, autre scène assez fascinante. Donc Jean Moulin, qui, vous le disiez, réunit finalement dans une pièce. Alors, et encore une fois, il faut que vous nous disiez aussi si ça s'est vraiment passé comme ça quelque part. Mais il réunit dans une pièce tous les représentants des partis politiques français qui se battent, donc tous les chefs des réseaux de la résistance. Et puis, en fait, il arrive tous les mettre d'accord pour soutenir De Gaulle, ce qui était très très
en
loin d'être
faisant
gagné,
croire qu'il y a que les Allemands arrivent
que
et donc
arrive.
Voilà, bon, alors ça c'est, je dirais que c'est une licence poétique, ça s'est pas passé comme ça, ça a été même beaucoup plus spectaculaire que ça, parce que Jean Moulin, qui était vraiment un héros dans tous les sens du terme, courageux physiquement, un grand stratège, mais et c'est aussi un politique.
C'est le seul qui impressionne De Gaulle en fait pendant le film, pour qui il a très profond respect, quelque part.
Ah oui, mais De Gaulle avait vraiment... Jean Moulin et Leclerc, et ça c'est très bien montré, ce sont les deux parties d'une même tenaille pour avoir raison sur les Américains. Le résistant de l'intérieur et le militaire. Bref, donc Moulin, depuis des mois, a travaillé à cette unanimité. Ouais. Et ça a été extrêmement difficile parce que les partis d'avant-guerre, vous savez, ils étaient comme les émigrés de 1815, ils n'avaient rien appris, ni rien oublié, et ils étaient tout à fait prêts à recommencer comme avant. Alors certains étaient rentrés dans la résistance, la SFIO, le Parti Radical, tout le monde ne collaborait pas, c'est pas parce qu'ils avaient voté les pleins pouvoirs au maréchal en 40 qu'ils collaboraient tous, il ne faut pas caricaturer. Les partis politiques avaient... beaucoup de leurs membres qui étaient rentrés courageusement dans la résistance. Mais ils ne voyaient pas de raison, en 1945, de ne pas continuer comme avant, de ne pas reprendre les choses comme elles étaient avant la guerre. Et donc, le rôle de Moulin a été de les réunir autour de Gaulle et de leur montrer qu'il fallait que les choses changent et que ça ne pouvait pas changer sans un chef et sans un changement d'institution.
Ouais.
Et ça, c'est fondamental. Et donc, c'est un travail d'orfèvre qui dure des mois. Ça ne s'est pas fait en une séance. Ouais. Mais ça, je dirais que c'est moins grave. Parce que dans la première partie, il y a des erreurs, comme cette histoire de muselier qui remplace De Gaulle. Ça, je ne sais pas où ils sont allés chercher ça. Alors que là... disons, qui résume en une heure ce qui s'est passé en quelques mois. Ouais. Mais ça, c'est pas grave, parce que ça s'est vraiment passé comme ça. Ça, c'est un film peut le faire.
Mais alors, justement, dans ces principaux réseaux de résistance, quelque part, ceux qui étaient vraiment en place, qui étaient les plus grands acteurs? Est-ce que c'était plutôt les communistes? Est-ce que c'était plutôt justement l'extrême droite? Est-ce que c'était qui étaient les chefs des grands réseaux de résistance qu'il fallait mettre d'accord justement?
Vous aviez l'OCM qui était l'organisation civile et militaire qui a été la première. C'était des militaires qui sont entrés en résistance clandestinement. C'était plutôt la droite. Les communistes sont entrés après, c'est vrai, après l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'Union soviétique. Mais ça, c'est le Parti communiste qui s'est vraiment déshonoré. Oui. La direction du Parti communiste. Mais il ne faut pas caricaturer, parce qu'il y a des militants communistes qui ont commencé à résister dès 1940. Hein. Ils n'ont pas attendu, donc il ne faut pas non plus caricaturer. Mais les communistes sont plutôt rentrés après. Voilà. Et puis, tous les partis politiques, surtout à partir de 1942, quand ils ont vu qu'il n'y avait rien à tirer de Vichy et de Pétain, parce que le maréchal ne passait pas en Afrique du Nord, parce que la collaboration, non seulement n'était pas interrompue après l'occupation de la zone libre, mais repartait de plus belle avec les persécutions des Juifs, des résistants, etc. Et là, tous les partis politiques s'y sont mis. Donc ça, c'est très, très bien vu. C'est très bien vu.
Ouais. Et alors, justement, à quel point est-ce que... Jean Moulin et la pièce maîtresse. Est-ce que Jean Moulin, il faut le comprendre comme étant l'agent de Gaulle en France pour tisser un lien entre tous ces réseaux? Est-ce qu'il faut le comprendre comme un chef de réseau qui rallie tous les autres à lui? Comment est-ce qu'il faut
les deux? Malraux a eu un très beau mot, vous savez, dans son discours de 1964, au moment du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, il a dit que ça a été le Carnot de la résistance. Mmh. Il a vraiment été le stratège qui a mis tout le monde d'accord. Qui a mis tout le monde d'accord et qui a finalement fait travailler ensemble des gens qui n'avaient rien de commun, puisque, comme je le disais, dans la résistance, vous aviez des gens qui étaient d'anciens cagoulards. Quand vous prenez quelqu'un comme Loustano Lacco, qui était vraiment à l'extrême droite, mais qui a été extrêmement courageux, puis des communistes ou d'anciens républicains espagnols, tout ce monde-là n'est pas fait pour s'entendre. Mmh. Sauf que, ils veulent en finir avec les Allemands, et il est celui qui les force à oublier leurs préjugés politique, de classe, etc., pour se mettre derrière De Gaulle. De Gaulle que Brossolette, autre très grand résistant qu'on ne voit pas dans le film, mais qui est presque aussi important que Jean Moulin, Brossolette appelait De Gaulle le symbole. Mmh. Ils étaient d'accord là-dessus. Ils étaient assez opposés de Moulin et Brossolette, parce que Brossolette était beaucoup plus à droite que Jean Moulin. Jean Moulin était radical.
Oui,
il était radical. Voilà, il était radical socialiste. Bon, mais et donc les deux hommes s'entendaient pas toujours. Mais là encore, ils ont fait alliance parce que c'était indispensable et que De Gaulle était le point commun. Oui. Il l'appelait le symbole. Mmh. C'était le point commun. Donc ça a été, comme l'a dit Malraux, le Carnot de la résistance.
Ouais. Et alors, ce qu'on observe aussi dans ce film, c'est ce qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que il y a quand même, moi pour le coup, les deux choses qui m'ont frappé instinctivement, et vous allez m'en donner d'autres aussi, c'est l'absence du débarquement de Provence et l'absence de la conférence de Yalta aussi, à laquelle De Gaulle le nom.
Et il y en a une troisième.
Alors, dites-moi.
Alors, vous avez raison, débarquement de Provence, c'est quand même très très important, parce que c'est l'armée française. Alors là
colonial.
Aussi, c'est un aspect qui n'est pas abordé, mais on ne peut pas tout aborder. Là, ce qui est important, c'est de montrer que sans De Gaulle, la France ne serait pas redevenue une nation souveraine, et ça a été magnifiquement montré. Mais il y a une œuvre magnifique qui a été faite par des gens comme Delattre, etc., qui a été l'union de l'armée d'armistice, donc l'armée d'Afrique du Nord, qui était restée fidèle au maréchal jusqu'en 1942, et qui va se rallier à De Gaulle, pas facilement du tout, hein, parce que la fusion entre des gens qui se battaient depuis 1940 et ceux qui étaient restés l'arme au pied jusqu'en 1942, et qui cependant se sont très courageusement battus après, ça n'a pas été facile. Et l'amiral De Gaulle raconte dans ses mémoires, qu'il faut lire, qui sont très intéressantes, combien lui, qui était... Ben, le fils de celui qui avait été condamné à mort par Pétain, combien c'est difficile de s'incorporer dans cette armée où la plupart étaient restés fidèles à Vichy. Et ben, cette fusion se fait, ces gens-là arrivent en Italie, débarquent en Italie, ont un rôle essentiel, c'est la troisième chose, qu'on a oublié, qui a été oublié dans le film, c'est la formidable épopée de l'armée française d'Italie. Donc qui est cette armée d'Afrique du Nord peuplée, enfin composée
d'Africains et
d'anciens communistes,
composée d'Africains et de maghrébins pour une immense partie d'ailleurs,
d'anciens pétinistes, de gaullistes et puis de effectivement de tirailleurs algériens, marocains, etc. Qui font qui obtiennent la formidable victoire de Cassino, parce que sans les muletiers qui montaient les canons à dos de mule, ils n'auraient jamais réussi à prendre Cassino, hein, que les Américains bombardaient depuis des semaines sans aucune espèce de résultat. Et ça, c'est vraiment grâce au tabord marocain et à l'armée d'Afrique. Et puis ensuite, c'est eux qui ouvrent aux Américains, aux Alliés, la route de Rome, parce qu'ils piétinaient, avant Cassino, ils piétinaient depuis presque 6 mois. Ils étaient sous le feu allemand, ils ne bougeaient pas, ils avaient débarqué à Anzio, ils ne bougeaient pas. Et c'est les Français qui ont ouvert la route de Rome. Donc ça, ça aurait pu être montré. Ensuite, le débarquement de Provence, où il y a 400 000 Français qui débarquent, donc cette armée d'Afrique, et qui va libérer la vallée du Rhône, qui va débouler dans les Vosges, à Strasbourg, où Leclerc les rejoint, qui lui arrive de Paris. Donc ça, c'est pas montré. Alors c'est vrai que c'est une lacune, mais je suis beaucoup moins critique sur cette lacune-là que sur celle de la première partie. Parce qu'ils ont voulu tout focaliser sur l'union de la résistance intérieure et de la France combattante, et c'est elle qui a fait la légitimité de Gaulle à la fin des fins.
Autre point justement que je donnais, c'est la conférence de Yalta, donc
c'est vrai.
Qui pour le coup est un vrai traumatisme pour De Gaulle quelque part, qui après le débarquement pensait que ça y est, il avait rangé la France dans le camp des vainqueurs, et finalement non. 6 mois plus tard à peu près, se tient la conférence de Yalta sans De Gaulle, alors qu'il est allé à Moscou pour voir Staline, il est allé à Washington pour voir Roosevelt, et ça n'a pas suffi.
Oui, mais avec Staline, ça s'est pas bien passé. Il a eu raison d'aller à Moscou, parce qu'il fallait, comme toujours, la France doit avoir des alliances d'équilibre, et face à l'allié américain, il fallait aller à Moscou. Simplement, ça s'est pas bien passé à Moscou, parce que Staline voulait lui imposer la reconnaissance du comité de Lublin, c'est-à-dire du gouvernement communiste qui voulait imposer à la Pologne.
Oui.
Et De Gaulle ne voulait pas. Donc ça s'est pas bien passé. Du coup, Staline n'a pas voulu De Gaulle à Yalta, et Roosevelt non plus, ce qui ne vous étonnera pas. Et il n'y a que Churchill qui voulait que De Gaulle vienne à Yalta. Et d'ailleurs, Churchill a obtenu à Yalta des deux autres alliés qu'on ménage une zone d'occupation française en Allemagne. Mais il n'a même pas eu besoin de l'obtenir, d'ailleurs, puisque De Gaulle s'est servi lui-même, puisqu'il a passé le Rhin. Vous savez, il y a une chose absolument essentielle, quand on libère Strasbourg, quand Leclerc libère Strasbourg, donc c'est en novembre 1944, un mois plus tard, il y a l'offensive des Ardennes. Et quand il y a l'offensive des Ardennes, les Américains ont peur d'être rejetés à la mer, c'est la dernière grande offensive du Reich, il y a un moment, il y a une petite semaine de panique dans les troupes américaines, et Eisenhower dit aux Français, vous abandonnez Strasbourg, vous évacuez l'Alsace, et vous remontez sur les Ardennes pour nous aider. Et De Gaulle dit pas question. Et De Gaulle dit pas question, on reste à Strasbourg, on défend Strasbourg, parce que si on quitte Strasbourg, les Strasbourgeois qui ont accueilli l'armée française sous les vivas vont être massacrés. Et deux, et ça il l'a pas dit, mais c'était l'idée qu'il avait derrière la tête, si on quitte cette zone, on ne passe pas le Rhin. Si on passe pas le Rhin, on n'occupe pas l'Allemagne. Si on n'occupe pas l'Allemagne, on n'est pas les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. On fait pas partie, le plus petit vainqueur bien sûr, mais on fait pas partie des 4 vainqueurs. Donc il faut y aller. Et il reste à Strasbourg. Et en fait, il va prendre le pied en Allemagne et il va créer sa propre zone d'occupation. Et en fait, ce que Churchill obtient à Yalta, c'est, en fait, il obtient en droit ce que De Gaulle a déjà obtenu dans les faits.
En fait, oui, tout à fait. Et alors, il y a un point, il nous reste une dizaine de minutes. Éric Branquet, je voudrais partir peut-être sur le fond, quelque part sur l'esprit du film un petit peu. Alors déjà, je vais vous dire à titre assez personnel, ce que je trouvais fascinant, c'est que c'est la première fois que je vois, dans les dernières années, un film qui fait ouvertement une apologie du roman national français.
Ah oui, bien sûr. Et de Français qui se battent. Hein, c'est pas seulement des défaites, c'est pas seulement tiens, bien fou, l'Algérie, les horreurs présumées de l'armée française, il n'y a pas de culpabilisation, on ne se flétrit pas, on monte des héros. Parce qu'il y en a eu. On monte des héros. Et ça, c'est très important. Et le côté chevaleresque de Leclerc, c'est également un symbole de toutes les gloires de la France. de toutes les gloires de la France. Moi, j'aime bien les films sur la collaboration. J'ai dit beaucoup de bien du film Les Rayons et les Ombres. Mmh. Enfin, il n'y a pas eu que des collabos, il n'y a pas eu que des gens épouvantables. Et même parmi les collabos, il y avait des gens
peu, en fait,
humains, juste... comme ce pauvre Luchaire, oui. qui s'est fourvoyé, qui était le complice de criminels, mais qui n'était pas au départ un mauvais type. Mmh. Bon. Mais voilà, j'en ai assez de montrer des gens qui se flétrissent.
Et alors, justement, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que dans ce film, on ne voit pas les collabos. D'ailleurs, on voit presque, on voit peu les nazis,
mais
même, en fait, on voit assez peu les collabos. Et en fait, c'est ça qui est assez fascinant, c'est que le parti pris donc du réalisateur, c'est de montrer finalement que, en fait, cette phrase de Leclerc qui est répétée, qui est « la France est et restera invaincue ». C'est-à-dire que, quelque part, c'est une manière de présenter la Seconde Guerre mondiale comme une France, en fait, comme la France que de Gaulle rêvait, c'est-à-dire une France qui s'est toujours battue, une France qui n'a jamais rien lâché.
Absolument.
C'est presque assez novateur, finalement.
On a dit que de Gaulle avait créé un mythe. C'est vrai qu'il a créé un mythe en disant que toute la France s'était battue. Et évidemment que ce n'est pas vrai. Toute la France ne s'est pas battue. Mais c'était un ferment d'unité nationale. Il ne pouvait pas montrer que tous les Français s'étaient battus, mais il pouvait montrer, et il l'a prouvé et démontré, que des Français n'avaient jamais cessé de se battre et n'avaient jamais déposé les armes. Et c'était ça qui était important. Combien les quelques centaines de Français libres de juin 40 qui sont devenus quelques milliers en juillet-août 40, qui sont devenus 70 000 en 1942 et qui sont devenus cette armée française d'un demi-million d'hommes du débarquement de Provence, c'est une épopée fantastique qu'on ne raconte jamais. Oui. D'où l'importance et l'intérêt de ce film. Ça ne montre pas que tous les Français ont été des héros, mais ça montre qu'il y a eu des héros et que ces héros n'ont jamais cessé de se battre depuis le début.
Et ce qu'on voit justement, un point qui est l'air fondamental pour De Gaulle, c'est la continuité de la France. C'est-à-dire que pour lui, la France ne s'arrête jamais et justement, n'est pas, en fait, il n'y a pas de France occupée. C'est presque comme si ça n'existait pas, la France occupée.
C'est pour ça d'ailleurs que De Gaulle avait la théorie, refusait de reconnaître la culpabilité de la France pendant l'occupation. C'est Chirac qui a reconnu ça pour la première fois, qui n'a pas résisté à la pression de certaines organisations. Mais de Gaulle à Mitterrand, tout le monde a été d'accord là-dessus. La France est une continuité, la République est une continuité. Dès lors qu'on considère que Vichy est légal, mais pas légitime, eh ben on considère que la légitimité, elle est du côté de ceux qui continuent à se battre. Donc, la collaboration, c'est le fait d'une administration, c'est le fait de personnalités qui se sont mises à la disposition de l'ennemi, ou qui ont plus ou moins fait ce que l'ennemi souhaitait, parfois en traînant les pieds, parfois en menant le double jeu. Un type comme Papon, par exemple, c'est quelqu'un qui a été dans le constant double jeu. Il a à la fois collaboré et à la fois sauvé des gens. Bon. Mais ça, ce sont des choses individuelles. Des choses individuelles. Mais la France n'est pas engagée par ça. C'est pour ça que De Gaulle, en 1940, et ça, c'est ce qui manque dans la première partie du film, se bat tellement pour que le gouvernement français passe en Afrique du Nord, c'est-à-dire garde les mains libres, parce qu'il dit un gouvernement... C'est toute une philosophie politique, le 18 juin. Une philosophie politique. Un gouvernement qui n'est pas libre, qui était à la disposition de l'ennemi, n'est plus un gouvernement. C'est une administration, c'est ce que vous voudrez, mais ça n'est plus un gouvernement. Il n'a plus de légitimité.
Et quelque part, par la parole de De Gaulle, en disant, enfin, c'est ce qu'il dit dans le premier film, justement, c'est la France, c'est nous, c'est moi, c'est je suis, j'incarne la France, je suis la voix de la France. En fait, rien que le fait de le répéter, finalement...
Bien sûr.
A eu un pouvoir de réalité, encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, où on considère que, enfin, on peut considérer que Vichy, effectivement, n'était pas la France. Vichy, c'était des Français qui administraient une partie de la France.
Très exactement.
Mais que le vrai gouvernement français était situé à Londres. C'était le gouvernement en exil. Pour le coup, c'est quelque chose qui, par l'aspect même un peu grandiloquent de Gaulle, finalement, a survécu encore jusqu'à aujourd'hui.
Vous savez, De Gaulle, dans ses mémoires, a une très belle phrase quand il
dit... Vous donnez envie de les lire, ces mémoires.
Il faut vraiment les lire. Monsieur. D'abord parce que c'est magnifiquement écrit, c'est souvent très drôle. Il y a des portraits désopilants. Bref, vous savez, vous connaissez le portrait du président Lebrun. C'est une phrase. C'est une phrase. Pour qu'il fût un chef, il lui aura manqué deux choses. Pour qu'il fût un chef d'État, il lui a manqué deux choses. Qu'il fût un chef et qu'il eût un État. Bon. Et puis alors ça, c'est deux phrases, et puis Churchill, c'est 10 pages. Ouais. Bon, bref. Mais dans ses mémoires, il a une chose absolument essentielle qu'il écrit au moment, ça se passe en juin 40, et il dit « Beaucoup m'ont reproché mon intransigeance ». Le fait que j'étais très raide, etc. Mmh. Mais ils n'ont pas compris que justement parce que je l'étais, si je cédais la moindre chose, je n'existais plus, j'étais broyé par les événements. Mmh. Et donc le fait de répéter « je suis la France, nous sommes la France », même si on est une minorité, même si on est une poignée, comme disait Malraux encore, qui a quand même eu des formules merveilleuses, de clochards épiques, il disait ça de Leclerc, il disait les clochards épiques de Leclerc. Bon, ben, ces clochards épiques, ils ont représenter la France, ils l'ont incarné. Vous n'avez pas besoin d'être un million pour être incarné, il suffit de d'une poignée de héros, et ça a été le cas.
Et alors, peut-être il nous reste 4 minutes, donc pour conclure, moi, quelque chose qui m'a vraiment surpris, justement, dans mon ignorance, on va dire, de Gaulle, c'est que ce qu'on voit à travers ces deux films, c'est que De Gaulle, c'est pas du tout un réaliste. De Gaulle, c'est un idéaliste profond qui est confronté à des réalités extrêmement dures en permanence, mais qui, comme vous l'avez dit, est intransigeant, et ça contraste un petit peu avec la vision qu'on a du gaullisme aujourd'hui, du gaullisme politique comme étant un pragmatisme. De Gaulle n'est absolument pas pragmatique du début à la fin dans ces deux films. Au contraire, c'est quelqu'un qui a poursuivi son idéal, et par son intransigeance vers l'idéal, finalement, il va réussir à s'y tenir.
Je suis pas d'accord à 100% avec vous, pour une fois, parce que De Gaulle est aussi un réaliste. C'est-à-dire qu'il a cette intransigeance, mais qu'elle est nourrie d'une analyse très fine et d'une anticipation des situations à venir. L'appel du 18 juin est très fort. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est vrai, c'est un symbole. Il dit la France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. Tout le monde pense qu'elle a perdu la guerre parce qu'elle a perdu une bataille. Et en même temps, il prouve pourquoi. Il explique pourquoi on n'a pas perdu la guerre. Parce qu'il dit, la phrase clé, c'est « des forces immenses n'ont pas encore donné ». La force mécanique qui nous a vaincus et qui était supérieure à la nôtre pourra être vaincue par une force mécanique supérieure. Et d'ailleurs, et c'est la grande injustice américaine vis-à-vis de De Gaulle, pourquoi les Américains détestent De Gaulle alors qu'il est l'un des premiers à en appeler, alors à les appeler au secours et à dire « mais les Américains peuvent nous aider, ils ont une force énorme qui n'est pas encore entrée en jeu ». Et quand il parle des forces immenses qu'ils n'ont pas encore données, c'est évidemment aux Américains qu'ils pensent. Mmh. Vous savez qu'il met à la disposition, il propose à Roosevelt…
Mais il explique aussi pourquoi les Américains le détestent. Il le dit, il y a cette phrase dans le film où il dit « je suis petit et je me tiens droit ». Je suis tout ce que les Américains détestent.
Bien sûr, c'est vrai.
Non, effectivement, et donc pour vous vouliez conclure pardon, justement sur… justement,
oui, je voulais vous rappeler cette chose que personne ne dit, c'est que dès le mois de juillet, août 40, quand les premiers territoires d'Afrique équatoriale française se rallient à la France libre, il dit aux Américains « mais on met nos ports à votre disposition ». Il fait un geste envers les Américains. Et c'est les Américains qui le snobent, qui préfèrent faire des grandes réceptions à Vichy avec le maréchal Pétain. Et ils font comme si De Gaulle n'avait rien proposé. Alors qu'il se met, il met la France libre à leur disposition. Ça commence pas bien entre les Américains et De Gaulle, et ça se termine pas bien non plus.
Ça se termine pas bien. Enfin, quelque part, ça se termine bien pour nous, à la fin des fins, mais tout ça grâce donc à De Gaulle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Éric Branca. Je rappelle vos livres. Hein. Voilà, De Gaulle et les Français libres, et puis De Gaulle et les grands, ainsi que évidemment l'ami américain. Voilà, toutes ces bonnes lectures. Et donc, vous nous conseillez également de lire les mémoires du général De Gaulle en lecture d'été. Voilà, on a 2 mois. Ça peut être l'occasion. Ce sera suffisant, je pense, 2 mois pour lire.
Ah oui, c'est pas très long, vous savez.
Bon, bah parfait. Alors, ce sera très bien pour nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On aurait pu évidemment aborder plein d'autres sujets, mais bon, ce sont des thèmes inépuisables. En tout cas, voilà, on vous conseille également d'aller voir ces deux films, La Bataille de Gaulle. Et chers auditeurs, de mon côté, c'est donc la fin de cette émission. Je vous invite déjà à faire des dons à Radio Courtoisie, soutenir.radiocourtoisie.fr, et puis également d'envoyer le chèque au 61 boulevard Murat 75016 Paris. De mon côté, je vous l'annonce, chers auditeurs, c'est très important, je vous donne rendez-vous demain à 7h30 pour une émission spéciale sur les résultats du procès de Marine Le Pen. Nous saurons dans l'après-midi aujourd'hui, vers midi, si Jordan Bardella ou Marine Le Pen sera candidat du Rassemblement National en 2027. Nous analyserons tout ça demain avec Arnaud Stéphane, nous l'analyserons également avec Hubert Coudurier et avec Bruno Gollnisch, voilà nos 3 invités. Merci d'avoir suivi cette émission et je vous donne donc rendez-vous demain, 7h30.